Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration en profondeur. Notre mission d'aujourd'hui, c'est de prendre des documents sources denses.
Des documents qui sont parfois bien cachés dans des archives discrètes, ouais.
Exactement. Et le but, c'est d'en extraire vraiment la quintessence. D'offrir une sorte de raccourci vers la connaissance, quoi.
Isoler ces petites pépites d'informations qui rendent le monde, et surtout notre passé, beaucoup plus tangible.
Et ça, sans jamais provoquer de surcharge mentale.
Surtout pas de surcharge, non. Juste l'essentiel.
Voilà. Et le document qui nous sert de socle pour notre analyse d'aujourd'hui, c'est une véritable machine à remonter le temps. C'est le fameux bulletin numéro 49.
Un numéro riche.
Très riche.
Ah oui. Mais avant même d'ouvrir ces pages, je pense qu'il est fondamental de mettre en lumière l'artisan de cette préservation.
Le travail de l'ombre.
C'est ça. Je veux parler de Guy Mazars. C'est le rédacteur en chef et le concepteur de la mise en page de ce bulletin. Il a accompli un travail de titan.
Et c'est crucial de le mentionner. Le formatage, la lisibilité d'une source historique, ça détermine entièrement sa capacité à survivre dans notre mémoire collective.
Ouais, parce qu'une archive mal présentée, au final, c'est une archive morte. L'assemblage méticuleux de Guy Mazars empêche des pans entiers de notre histoire locale de sombrer dans l'oubli.
Tout à fait. Son travail éditorial nous offre une fenêtre d'une clarté remarquable. Ça permet vraiment une analyse rigoureuse des dynamiques sociales et architecturales d'une région entière.
Bon, pour ne pas nous disperser face à toute la richesse de cette publication, notre consigne pour cette exploration est stricte. Notre focale va se resserrer exclusivement sur un article central du bulletin.
L'article intitulé « Copiac au pays des sept vallons ».
Exact. Et son auteur, Michel Delon, signe ici un texte incroyable. On a presque l'impression de sentir l'odeur de la pierre humide, tu vois, d'entendre le bruit des charrettes médiévales.
Il nous plonge vraiment dans un univers où l'architecture dicte la survie.
D'accord. Décortiquons tout cela. Michel Delon nous emmène dans un endroit bien particulier. Ce serait judicieux de poser les fondations géographiques pour ceux qui nous écoutent.
Alors, le rideau se lève sur l'Aveyron, dans le sud de la France. Et l'expression « le pays des sept vallons », c'est pas juste une petite coquetterie poétique.
Juste pour faire joli, quoi.
Non. C'est une réalité topographique brutale. On parle d'un territoire très accidenté, creusé par les cours d'eau.
Où chaque déplacement demandait un effort physique colossal autrefois.
C'est exactement ça. Et cette géographie a forgé des communautés isolées, résilientes. Le moindre édifice monumental prenait une importance démesurée.
L'histoire médiévale là-bas n'est pas reléguée dans les musées.
Elle est littéralement figée dans le paysage quotidien. Michel Delon analyse un espace temporel où chaque époque a laissé sa cicatrice dans la roche.
Et la première de ces cicatrices, la plus imposante soulevée dans l'article, c'est le château de Coupiac.
Une structure massive.
Quand on lit les descriptions et qu'on regarde les reproductions d'archives documentées par Michel Delon, la notion de longévité prend tout son sens.
Ses racines s'enfoncent entre le XIIIe et le XVe siècle.
C'est fou. C'est pas juste un tas de vieilles pierres, c'est une masse qui a traversé la guerre de Cent Ans, les épidémies de peste, les famines...
Les hivers glaciaux, sans cellier.
Ouais. Le château s'impose comme un monument aux mille vies. Il mue à chaque siècle. Il absorbe les bouleversements de la société française, passant d'une main à l'autre pour garantir sa survie.
Ce qui est fascinant ici, c'est d'analyser cette chaîne de transmission immobilière. C'est comme un sismographe des grands bouleversements politiques français.
Michel Delon détaille ça très bien, oui.
L'article explique la vente du château en 1793. La France est en pleine ébullition révolutionnaire. Les propriétés de la noblesse ou du clergé sont souvent saisies.
Ça devient ce qu'on appelait des biens nationaux.
Voilà. Vendus pour renflouer les caisses de l'État. Le domaine de Coupiac tombe alors entre les mains d'un citoyen de Toulouse.
Et la rapidité des transactions donne le vertige. Parce qu'en 1795, à peine 2 ans plus tard, boum, nouveau transfert de propriété.
Et cette fois, l'acquéreur est un certain Bonnet, notaire à Plaisance.
Il y a une certaine ironie à voir un notaire faire une excellente opération immobilière au milieu du chaos révolutionnaire.
Ça illustre la montée en puissance d'une nouvelle classe sociale.
On retire les clés du château à la noblesse de sang pour les confier aux professionnels du droit, à la bourgeoisie administrative.
La forteresse militaire perd sa vocation guerrière. Elle devient un pur actif financier.
Un placement acté sur du papier timbré.
La nature de la propriété se transforme, soumise aux lois du marché naissant. Mais ça ne s'arrête pas là. Michel Delon pointe un autre virage spectaculaire au XIXe siècle.
En 1872, c'est ça?
Exactement. En 1872, c'est un abbé qui l'achète, pour le compte de la paroisse locale.
La boucle sociale est saisissante. D'abord le pouvoir féodal, ensuite le capitalisme bourgeois post-révolutionnaire, et hop, la forteresse est engloutie par la sphère spirituelle.
L'Église était en pleine reconquête de son influence dans les campagnes. Elle utilise cet ancien symbole du pouvoir seigneurial pour asseoir son autorité paroissiale.
Le bâtiment s'adapte vraiment comme un caméléon et cette valse trouve une conclusion moderne très forte sur le plan symbolique.
L'année 1981 ?
Oui, Michel Delon mentionne 1981 comme le point d'orgue. La commune de Coupiac rachète le château. On passe du domaine ecclésiastique au domaine public.
La boucle est bouclée. Ce qui a été construit pour dominer la population locale apparaît désormais officiellement à cette même population par l'intermédiaire de la mairie.
Mais l'intégration au domaine public, c'est juste l'étape administrative.
La seconde étape, l'étape humaine, arrive l'année suivante. L'article s'attarde sur 1982.
La date de création de l'association.
Oui, Los Amics del Castel de Coupiac, les Amis du Château de Coupiac.
C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'on sort de la pure transaction notariale pour entrer dans la passion. L'huile de coude.
Posséder un bâtiment du XIIIe siècle, c'est un cauchemar financier pour une petite commune rurale. L'émergence de cette association marque la prise de relais par la société civile.
Sauver un château, c'est pas juste signer un chèque. C'est des dizaines d'anonymes, des habitants, qui sacrifient leur week-end pour gratter de la mousse, réparer des toitures.
Déblayer des gravats.
Exactement. Organiser des visites. L'acte de préservation devient un acte profondément civique.
Si l'on relie cela à la perspective globale, le glissement sociologique est majeur. Historiquement, un château fort était une entité subie par les villageois. Ces murs représentaient la corvée, l'impôt, la justice arbitraire.
Et la création de l'association renverse ce paradigme.
Totalement. La population locale devient l'ange gardien de l'édifice. Les habitants choisissent de protéger activement cette histoire pour les générations futures.
La restauration devient une conscience aiguë que ces vieux murs sont le vecteur de l'identité des Sept-Vallons.
Et cette ferveur locale fait écho à une autre dynamique explorée par Michel Delon. Une dynamique beaucoup plus ancienne, spirituelle cette fois.
Oui, parce que l'article ne se cantonne pas à l'architecture militaire. Il explore longuement le sanctuaire de Notre-Dame du Saint-Voile.
Situé également à Coupiac.
Voilà. Les archives décrivent un lieu de pèlerinage qui attirait des foules colossales. On a du mal à s'imaginer l'effort physique que représentait ce voyage au Moyen-Âge.
Traverser ces sept vallons escarpés.
Affronter la boue, les intempéries, parfois les brigands, juste pour venir s'agenouiller devant une relique.
Le phénomène du pèlerinage structurait complètement l'économie de ces territoires. Un sanctuaire agissait comme un aimant démographique. Il fallait nourrir et loger tous ces pèlerins.
Des auberges voyaient le jour, un réseau d'échanges se tissait.
Michel Delon élargit d'ailleurs sa focale pour intégrer les communes voisines, avec une mention très instructive du village de Plaisance.
Plaisance, c'est un cas d'école fascinant. Delon précise que ce village a vu le jour suite à une ordonnance royale.
Pour nous, une ordonnance royale, ça sonne comme un banal décret.
Une signature en bas d'un parchemin. Mais à l'époque, c'était le summum de l'aménagement du territoire. C'était une décision géopolitique.
Créer une communauté de toutes pièces pour sécuriser une zone frontalière ou pour concentrer des populations éparses et mieux prélever l'impôt.
Tout ça en échange d'une protection physique.
L'attractivité de ces nouveaux villages reposait sur cette promesse de sécurité. Et à Plaisance, l'article s'arrête sur l'église romane Saint-Martin.
Bâtie au XIIe siècle.
Et profondément remaniée ensuite. Mais l'élément central, ce n'est pas la nef, c'est la tour clocher. Les archives révèlent que cette tour servait de refuge ultime lors des temps de guerre.
Qu'est-ce qui retient l'attention de ceux qui écoutent cette histoire ?
C'est la brutalité du contraste. On perçoit aujourd'hui cet édifice comme un lieu de prière, de silence, mais en réalité, c'était une machine de survie.
Il faut visualiser la scène. On est en pleine guerre de 100 ans. Le guetteur au sommet de la tour de Plaisance sonne l'alarme. En quelques minutes, c'est la panique absolue.
Des centaines de villageois se précipitent vers l'église avec leurs enfants, des sacs de grains.
Parfois, du bétail. Tout le monde s'entasse dans l'étroitesse d'une tour en pierre. On grimpe des escaliers en colimaçon, on barricade de lourdes portes en bois.
L'odeur, le bruit, la promiscuité, la peur de voir le village brûler.
La même pierre qui résonne des chants grégoriens le dimanche devait encaisser le choc des flèches le lundi.
La spiritualité et la stratégie défensive ne faisaient qu'un. L'épaisseur des murs protégeait des assauts et la hauteur permettait de scruter l'horizon à des kilomètres.
Dans ces vallons isolés, l'État central était trop loin pour envoyer une armée de secours. La communauté ne pouvait compter que sur sa propre organisation.
Et sur la solidité de son église. Cette imbrication souligne vraiment la dureté du quotidien médiéval.
Ce besoin de sanctuariser la survie dans la pierre, c'est un réflexe millénaire. Mais Michel Delon démontre que ça perdure bien au-delà du Moyen-Âge.
L'article opère un saut temporel foudroyant vers le XXe siècle.
Au milieu d'une autre forme de chaos, Delon mentionne l'édification d'un calvaire sur la commune. L'année de son érection frappe comme un coup de poing.
1941.
1941, en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale, dans une France meurtrie. Au milieu des descriptions de donjons et de nefs, cette date récente agit comme un ancrage brutal.
Cela soulève une question importante sur la manière dont les petites communes gèrent le deuil national et le traumatisme.
Comment métaboliser l'horreur d'un conflit mondial quand on est isolé dans ses vallons ?
L'article précise que ce calvaire a été érigé pour honorer les enfants de la commune tombés pour la France. Et au lieu d'utiliser un langage architectural nouveau, la population recourt à la syntaxe intemporelle de la région.
La pierre érigée vers le ciel. C'est une stratification mémorielle saisissante. Le sol de Coupiac absorbe toutes les secousses de l'histoire humaine.
On utilise un symbole religieux millénaire pour traiter un deuil contemporain écrasant.
On imagine les familles en 1941, peut-être les descendants directs des paysans qui se cachaient dans la tour de Plaisance, se réunissant cette fois pour graver le nom de leur fils mort au front.
Le paysage n'est pas un décor de carte postale. C'est le registre comptable des larmes et des espoirs de la région. La continuité historique est le véritable fil conducteur du travail de Michel Delon.
De la construction martiale du château, aux ventes spéculatives de la Révolution, jusqu'au monument de 1941, tout s'imbrique.
Ces sept vallons se comportent comme un gigantesque palimpseste, un parchemin gratté pour écrire un nouveau texte, mais où les anciennes lettres restent visibles en filigrane.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Si l'on prend un peu de hauteur sur cette remarquable synthèse offerte par Michel Delon dans ce bulletin numéro 49, mis en page par Guy Mazard.
On y observe un microcosme qui refuse de se laisser effacer par le temps.
Un château féodal, symbole d'oppression, devient un bien commun choyé par des associations. Des églises se transforment en bunkers primitifs pour assurer la pérennité de Plaisance.
Un sanctuaire attire des foules en quête de miracles et un calvaire rassemble une population en deuil. C'est le portrait d'un territoire d'une résilience absolue.
L'enseignement majeur, c'est l'universalité de l'histoire locale. L'histoire avec un grand H ne s'écrit pas que dans les capitales. Elle s'imprime avec violence et authenticité dans la chair de ces territoires ruraux.
Trouve sa traduction physique dans les pierres de Coupiac.
Chaque bloc de pierre est un fragment du code génétique de la société française. Et cela nous mène à une ultime réflexion. Une pensée à garder à l'esprit la prochaine fois que notre regard se posera sur un vieux mur en ruine.
L'article s'appuie brillamment sur des archives officielles, des actes notariés, des registres.
Ces documents retracent la vie des puissants, des propriétaires. Mais dans le silence de ces vallons, quelles sont les voix qui n'ont jamais eu le privilège de l'encre et du papier ?
Quelles sont les histoires invisibles de ces tailleurs de pierre qui se sont brisés le dos sur les remparts du château ?
De ces mères alomimes qui calmaient les pleurs de leurs enfants dans l'obscurité terrifiante de la tour clocher de Plaisance ? Ou de ces simples paysans dont la sueur est littéralement mélangée au mortier ?
Les archives officielles encadrent l'histoire.
Mais ce sont ces fantômes illettrés, ces oubliés des registres, qui donnent aujourd'hui encore son épaisseur vertigineuse au silence de ces murailles.